Marc Théris, bonjour.
Bonjour.
Vous nous proposez une balade dans la New York arabe. Ce n'est pas anodin alors que New York est présentée comme la plus grande ville juive du monde. Alors après avoir lu votre livre, on comprend pourquoi les plus importantes manifestations pro-Palestine qui ont eu lieu à New York depuis le 7 octobre dernier et l'opération de l'armée israélienne dans Gaza se soient déroulées à Manhattan et à Brooklyn, car c'est Manhattan qui fut la première terre d'accueil, on va dire, pour les premières communautés arabes arrivant à New York. Alors on parle même de Little Syria. Il faut remonter aux années 1870. Vous nous racontez cette première migration?
Alors, cette première migration, elle vient effectivement essentiellement des monts du Liban. Et elle débute au 19e siècle parce que là-bas, on a une population qui souffre économiquement. Il y a l'économie de la soie qui s'effondre, qui était l'industrie traditionnelle. Et il y a également l'Empire Ottoman, puisque le Liban n'existe pas. C'est à l'époque la Syrie, c'est une province de l'Empire Ottoman. L'Empire Ottoman qui se livre à des guerres, les guerres des Balkans notamment, puis la guerre de 14-18, qui va engendrer bien des départs, notamment d'hommes, parce qu'ils ne veulent pas être enrôlés dans l'armée, participer à ces guerres menées par l'Empire, parce qu'ils ne sont pas turcs. Il y a un début aussi d'arabité, voilà, qui naît chez eux.
Vous nous expliquez aussi que dans ce choix de New York, il y a une exposition qui va jouer un rôle, c'est l'exposition universelle de Philadelphie en 1876. C'est intéressant.
Tout à fait, voilà, il y a des entrepreneurs issus du monde arabe, bien issus de ce qu'est le Liban actuel, qui vont participer à cette exposition internationale. Ils voient que la situation économique est compliquée au Proche-Orient. En revanche, ils pensent qu'il y a beaucoup d'opportunités économiques et ils commencent à avoir des idées pour développer ce qui va se développer par la suite, c'est-à-dire du colportage, la vente de produits.
Que vendent-ils ?
Alors, ils vendent des babioles, souvent liées, on va dire, à la dévotion chrétienne. Donc,
c'est intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement, les premiers Arabes sont
essentiellement, à 90%, ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens maronites surtout. Et c'est ce qui va se faire au niveau de Little Syria, en fait, qui va devenir l'épicentre économique de la communauté, on va l'appeler syro-libanaise de l'époque. Donc on a des arrivées de syro-libanais qui s'installent à Little Syria, c'est la porte d'entrée, parce que New York, pour eux, c'est les États-Unis, en fait. Donc ce quartier Little Syria, il est au sud de Manhattan, lié à Washington Street, aujourd'hui un quartier qui a disparu parce qu'il y a eu des travaux pour construire un tunnel qui va relier Manhattan à Brooklyn. Et puis après ces années 1924, au moment où il y a des lois restrictives au niveau de l'immigration aux États-Unis, avec la crise de 29 qui arrive, l'épicentre de la communauté arabe, on va dire, on peut l'appeler comme ça, va se déplacer à Brooklyn.
Et aujourd'hui, Brooklyn, le Queens, le Bronx, Astoria, c'est des endroits où on retrouve cette communauté.
Alors, c'est Brooklyn et le Queens qui sont un peu les figures de proue de cette communauté. Brooklyn, historiquement, il y a Atlantic Avenue. C'est ce que je vous ai dit. À partir du début du XXe siècle, ça devient l'épicentre de la communauté. Il y a aussi le Queens, effectivement, avec le quartier d'Astoria. Et dans une moindre mesure, Manhattan et Staten Island. Mais le Queens et donc Brooklyn sont vraiment l'épicentre de cette communauté où on va trouver des commerces, où il y a encore une vie culturelle assez prégnante, des artistes notamment, on en parlera sans doute, qui font vivre cette culture arabo-américaine.
Comment sont-ils accueillis, s'intègrent-ils facilement?
Alors, ils ne sont pas très bien accueillis. Il y a des préjugés racistes de l'Amérique à cette époque envers toutes les personnes qui ne sont pas issues de l'Europe du Nord-Ouest, on va dire. Les Italiens en ont fait les frais, encore plus les Syro-Libanais de l'époque.
Il fallait être blanc et protestant.
Voilà,
et
il y a aussi une Amérique qui est très ségrégative à l'époque. Et les Arabo-Américains entrent dans la case noire si on se fie aux sources de procès, notamment à ce niveau-là. Il n'y a que les Marocains qui échappent à cette case parce qu'il y a des accords entre le Maroc et les États-Unis. Le Maroc étant le premier État à avoir reconnu les États-Unis d'Amérique.
L'indépendance des États-Unis. Voilà. Donc ils ne sont pas très bien accueillis. Il y a quand même des intégrations réussies. On peut peut-être parler, même si effectivement ça va se terminer par un drame, mais de l'astronaute Christa McAuliffe.
Oui, alors Christa McAuliffe fait partie de cette première génération qui va être assimilée après la Deuxième Guerre mondiale et qui est un peu invisible finalement. Christa McAuliffe, par sa mère, est syro-libanaise. Et son oncle était Philip Hitti, qui est un personnage éminent qui a travaillé dans l'histoire des Arabo-Américains. Donc Christa McAuliffe, c'est cette astronaute qui était institutrice en 1986, qui a été mobilisée par la NASA pour la mission Challenger. Et cette mission qui s'est terminée dramatiquement puisque la navette a explosé. explosé dès le décollage. Oui.
Aujourd'hui, comment l'identité arabo-américaine s'exprime-t-elle? Parce que je voudrais replacer cette question dans la perspective du 11 septembre 2001, du muslim ban imposé par Donald Trump qui bannissait des États-Unis les ressortissants de 7 pays musulmans. Comment est-ce qu'elle s'exprime? Est-ce que c'est la construction d'une identité arabe dans un climat hostile?
D'abord, il faut expliquer qu'il y a eu une deuxième vague d'immigration dans les années 60, à l'époque de Kennedy, avec l'ouverture des frontières pour les États-Unis. Il y a beaucoup de Palestiniens qui sont arrivés, des Libanais aussi, pendant la guerre civile, et beaucoup plus de musulmans que par le passé. Hein, on a aussi des Yéménites, des Égyptiens plus récemment. Donc il y a aussi bien les deux attentats du 11 septembre, qui vont avoir un impact sur cette communauté. Et cette communauté, bien oui, elle se construit, on peut le dire, dans une certaine forme d'hostilité. L'image de l'arabe dans le cinéma américain, l'image du Palestinien, par exemple, c'est l'image du terroriste. Et c'est encore assez prégnant, malheureusement. Et donc, les arabo-américains, face aux discriminations, essaient de se rapprocher, notamment dans les années 70, 80, des afro-américains. Il y a une solidarité de lutte, hein, on le trouve notamment dans la littérature, parce qu'ils se sentent discriminés, ils se sentent dévalorisés. Aux États-Unis, jusqu'à récemment, si vous affirmiez que vous étiez pro-palestinien, on était plus ou moins qualifié de terroriste.
États-Unis, effectivement, pro-Israël.
Voilà, les États-Unis sont des alliés indéfectibles d'Israël dans sa politique au niveau du Proche-Orient. Donc voilà, ils se construisent face à cette hostilité assez généralisée, une image du monde arabe négative liée aussi aux campagnes américaines en Irak ou autre. Mais le 11 septembre va être un déclencheur assez fort, parce que bien sûr, on a un gradient là qui va s'élever dans les discriminations. Et les arabo-américains, même les anciens arabo-américains arrivés au 19e siècle, au début du 20e siècle, vont ressentir le besoin de s'exprimer culturellement, de revendiquer leurs origines. C'est à travers la culture, le théâtre, la littérature, qu'ils vont essayer de donner une voix singulière. Et c'est particulièrement vrai à New York, justement. On ne retrouve pas ça vraiment dans les autres villes.
Quelques jours, dans une tribune publiée par le Wall Street Journal, elle a provoqué la polémique. Elle titrait « Bienvenue à Dearborn, capitale américaine du djihad ». Les imams et les hommes politiques de cette ville du Michigan se rangent du côté du Hamas contre Israël et de l'Iran contre les États-Unis. Vous en parlez un tout petit peu dans votre livre, parce qu'effectivement, ce n'est pas New York, mais Dearborn, c'est une ville du Michigan qui abrite la plus grande communauté arabe des États-Unis. Donc, cet article, cette tribune illustre le fait que cette communauté arabo-américaine doit sans cesse se justifier.
Cette communauté arabo-américaine doit sans cesse se justifier et en même temps, elle a essayé aussi d'influencer les politiques au pouvoir aux États-Unis, sans succès. Hein. Par exemple, Hillary Clinton, à un moment, dans sa campagne primaire, avait eu le soutien des arabo-américains via de l'argent, argent qu'elle a refusé, parce que c'était mal vu. Donc ils sont ostracisés, mais ils essayent malgré tout de surmonter, je dirais, cette mise à l'écart qui est constante au niveau des États-Unis. Les choses changent un petit peu, notamment à New York, on le voit dernièrement. Hein.
Alors, on parle à présent de la vie culturel littéraire à New York. Vous rappelez dans votre livre que le célèbre écrivain libanais Gibran Khalil Gibran a écrit Le Prophète à New York, que Alaa El Aswany, le célèbre écrivain égyptien, vit à New York. Quel est le dynamisme de la vie culturelle de la communauté arabe à New York aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, en fait, on a trois poète majeur. Alors, la première, c'est H.D. Melhem, qui est un peu la pionnière dans les années 70-80, qui va justement essayer de se rapprocher des Afro-Américains. Ensuite, on a Laurence Joseph, qui est d'origine libanaise, qui va écrire des poèmes, notamment le poème Sand Nigger, Nègre de sable, où il se rapproche des Afro-Américains, où il se rapproche aussi des Juifs, quelque part. Il parle qu'il y a une communauté de destin entre les deux communautés. Et la dernière personne qui est toujours en activité, c'est Souhel Hamad, qui est d'origine palestinienne. Elle est née à Brooklyn, qui est slameuse, poète, qui a écrit Born Palestinian, Born Black. Et puis, on a aussi un festival de la culture arabe, maintenant qui a lieu dans l'ensemble de la ville de New York. Il était au Brooklyn Museum, fut un temps, où on fait venir des chanteurs arabo-américains, des spécialistes du spectacle vivant, du théâtre, enfin, tout ce qu'il fait, la vie culturelle arabo-américaine et au-delà. Et puis le théâtre, comme je disais, qui est très présent, notamment à travers un artiste qui s'appelle Youssef Al-Ghindi, qui est d'origine égyptienne, qui est très prégnant.
On termine avec deux anecdotes. Dans votre livre, il y a le nom de Steve Jobs et des Simpsons, Vous nous dites pourquoi ?
Oui, alors Mona Simpson, qui est la sœur biologique de Steve Jobs, Steve Jobs ayant été abandonné à la naissance, eh bien cette Mona Simpson est née Mona Jalandi, et comme Steve Jobs est né Steve Jalandi, donc c'est sa sœur biologique, qui va donc devenir l'héroïne de Mona Simpson, des séries Simpson, parce qu'elle va prendre le nom de son beau-père. Et son mari, le mari de Mona Simpson, pour la petite histoire, s'appelle Monsieur Apple, et c'est le producteur de la série des Simpson. Voilà, ça fait de nombreux clins d'œil.
Steve Jobs, son père biologique était donc
d'origine syrienne,
voilà, oui, habitant d'origine. À Homs. Oui, oui. Et donc il a été adopté par un couple d'Américains.
Oui, tout à fait.
Merci beaucoup, Marc Théris.
Merci à vous.